Je n'ai pas eu l'occasion encore d'exprimer toute ma joie de vivre ce week-end avec vous. Oui, c'est la première fois en fait, depuis que je suis arrivé à l'église de Saint-Maur, la première fois qu'on vit un week-end en dehors de nos murs. Vous vous souvenez que les 3 années précédentes, on était bien confinés entre 4 murs. Mais là, c'est la première fois que je vis un week-end avec vous en dehors de nos murs. Et ouais, c'est vraiment une joie pour moi de vous voir présent, d'avoir répondu à cet appel. Et c'est vrai, on a eu un peu de stress au niveau de l'organisation, mais Dieu a pourvu, et comme nous l'avons appelé, Dieu est bon. C'est l'occasion aussi, durant ce week-end, comme chaque week-end d'église, de pouvoir marcher à pas lents et de pouvoir écouter la voix de Dieu. Peut-être plus particulièrement quand on est dans un cadre comme celui-là, où on peut aller se balader, où on peut se retrouver aussi dans le cloître, où le silence est demandé, et simplement pour pouvoir écouter Dieu. Et bien sûr, on peut l'écouter particulièrement par sa parole. Et c'est ce que nous allons faire durant trois messages, en particulier sur l'épître à Tite. C'est cette épître que j'ai choisie, l'épître que Paul a écrite à Tite, son collaborateur, celui qu'il appelle aussi son enfant légitime dans la foi. Et je suis certain que cette courte lettre, qui comporte 3 chapitres, cette courte lettre a beaucoup à nous dire, à la fois sur notre vie chrétienne, notre vie personnelle devant Dieu, mais aussi sur notre vie d'église. Et d'une manière ou d'une autre, eh bien, Dieu attend de nous que nous mettions en pratique ce que Paul écrit à Tite à propos des églises. Et pour cela, pour ce week-end, je vous propose un défi par rapport à ce texte, de pouvoir, voilà, vous allez comme ça vous pousser à être attentif, mais attentif surtout à la parole de Dieu, de pouvoir trouver les expressions qui sont répétées tout au long de cet épître. Quelles sont les expressions qui sont répétées plusieurs fois tout au long de cet épître à Tite? Et vous me donnerez vos réponses demain. Donc, prenez le temps de pouvoir être attentif à cela, de pouvoir peut-être noter cela quelque part, et de pouvoir surtout repérer quelles sont ces expressions qui sont répétées plusieurs fois. Vous savez que quand des expressions sont répétées, c'est que l'auteur veut particulièrement insister là-dessus, c'est que très certainement le thème de cet épître se trouve dans ces expressions aussi répétées. Donc voilà, un petit défi pour pouvoir garder l'attention tout au long de ce week-end. Il y a 10 ans, on peut montrer la photo qui va s'afficher. Alors, je ne sais pas si on voit grand-chose, mais il y a 10 ans, j'étais en Crète pour faire de la randonnée. Alors, hier, Clément a parlé un peu de randonnée. J'aime bien la randonnée, hein, comme vous le savez. Et au cours de mon séjour sur les belles plages crétoises, eh bien, je suis tombé sur cette petite chapelle. Et vous savez comment on appelle cette chapelle ou cette église? Quel était le nom de cette église? Eh bien, c'était l'église Saint-Paul. Le nom n'est pas étonnant si l'on croit en effet, d'après le témoignage qu'on peut avoir au moins dans la lettre à Tite, que l'apôtre Paul est passé par là, est passé en Crète il y a déjà presque 2 millénaires. Et c'est effectivement en Crète, on peut montrer la carte qui suit, que nous nous rendons durant ce week-end. C'est en Crète pour regarder d'un peu plus près ce que Tite doit y faire. Donc, une carte pour vous montrer un petit peu où se situe la Crète par rapport à la Grèce notamment. Dans cette lettre que nous allons commencer à lire, Paul donne des instructions, donne des recommandations à Tite. Et dans le texte de ce matin particulièrement, eh bien nous allons repérer qu'il y a deux groupes. Deux groupes d'hommes, et ce sont en quelque sorte les bons et les méchants. Et la mission de Tite, c'est de trouver les bons. C'est-à-dire d'établir dans chaque ville de Crète, donc vous voyez un peu l'île, hein, dans chaque ville de Crète, des anciens qui soient capables d'encourager les croyants avec le bon enseignement, l'enseignement qui est fidèle à la parole, et de pouvoir confronter aussi ceux qui n'enseignent pas en fait la saine doctrine. Donc la mission de Tite, c'est de trouver les bons pour faire face aux méchants. Et d'emblée, nous voyons la préoccupation de Paul de vouloir protéger les églises crétoises d'une influence néfaste. Ou pour employer encore une autre image que nous avons vue d'ailleurs hier, il y a des loups dans la bergerie et il faut des bergers pour veiller sur le troupeau. Il y a des loups dans la bergerie, et il faut des bergers pour veiller sur le troupeau. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on se pose déjà d'emblée cette question nous concernant. Et nous, avons-nous besoin d'être protégés? Avons-nous besoin de nous protéger face à une influence néfaste qui viendrait de l'extérieur? Ou peut-être de l'intérieur? Voyons d'abord la mission particulière de Paul. Avant même de nous focaliser sur la mission de Tite, regardons ce que Paul dit au début de cette lettre. Et j'en fais la lecture, versets 1 à 4. « De la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, j'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps. » Et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et Jésus-Christ notre Sauveur. Si vous lisez le début des lettres de Paul, vous remarquez tout de suite que Paul a toujours une manière spécifique de se présenter, en rapport en fait avec l'objet de la lettre. Et la question que nous devons nous poser, c'est quel est le lien entre ces premiers versets et puis le reste de la lettre? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette présentation de Paul par rapport au reste de la lettre? Alors bien sûr, si vous ne connaissez pas très bien la lettre de Tite, vous n'allez pas faire tout de suite le rapprochement, mais je vais essayer de le démontrer. D'abord, on voit au verset 1 et au verset 4 que le début et la fin sont plutôt courants dans les lettres de Paul. À savoir que Paul se présente comme un serviteur de Dieu, comme un apôtre de Jésus-Christ, et ça, ce n'est pas étonnant, il le fait quasiment dans toutes ses lettres. La fin des salutations, pareil, quand il dit « grâce et paix de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ », il le dit pratiquement dans toutes ses lettres aussi. Donc, le début et la fin ne nous étonnent pas trop. Mais c'est plutôt ce qui est entre les deux qui est plus original. Paul parle de sa mission, de la mission qu'il a reçue lorsque Christ l'a appelé en tant qu'apôtre, en tant que messager. Sa mission consiste à évangéliser ceux qui ont été choisis par Dieu. Et puisqu'ils ont été choisis par Dieu pour le salut, eh bien Paul peut les amener à la foi. Paul peut leur faire connaître la seule vérité qui existe, à savoir l'enseignement qui concerne Jésus-Christ. Et c'est justement en étant instruit par l'Évangile, en croyant en Christ, que les chrétiens peuvent espérer en la vie éternelle. Vous connaissez Jean 3,16. Quelqu'un peut nous réciter Jean 3,16? Parce qu'a priori, c'est le verset qu'on fait réciter dès le plus jeune âge. Que dit Jean 3,16?
Dieu a tant aimé le monde qu'a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie.
Bon, quasiment tout le monde le connaît. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit, donc ça c'est la foi, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on nous parle ici de l'espérance de la vie éternelle. Et la mission de Paul, c'est d'amener les gens à la foi, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Ça rejoint Jean 3,16. Et alors qu'il a parcouru bien des contrées, Paul a pu être témoin des fruits de son ministère, notamment auprès des non-juifs. Grâce à Dieu, plusieurs ont cru en Jésus-Christ. Grâce à Dieu, plusieurs ont connu la vérité qui concerne Jésus-Christ. Et plusieurs aussi ont eu cette espérance de la vie éternelle. Et on va le lire un peu plus tard dans le chapitre 1. Les Crétois sont réputés pour être des menteurs. Et vous remarquez ici ce qu'on dit de Dieu. Dieu est celui qui ne ment pas. Dieu qui ne ment pas a fait cette promesse de la vie éternelle. Lorsque vous dites Jean 3,16, j'espère que vous croyez en cette promesse. Que quiconque croit a la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas a fait cette promesse. Une promesse qui est notamment révélée par la prédication. La prédication que Paul a la charge d'annoncer. Cette promesse qui est adressée à quiconque croit. Oui, quiconque croit peut espérer en la vie éternelle. Et Tite est de ceux qui ont cru. Et c'est pour ça que Paul peut l'appeler mon véritable enfant dans la foi, qui nous est commune. Nous partageons la même foi. Et voici ce que nous remarquons. Paul emploie à deux reprises l'expression « notre sauveur » au verset 3, au verset 4. Et j'anticipe déjà sur les chapitres suivants où Paul va effectivement revenir plusieurs fois sur le thème du salut. Au chapitre 2, on peut montrer la slide suivante. Au chapitre 2, il est question de la doctrine de Dieu, notre sauveur, verset 10. Dans ce même chapitre 2, au verset 13, Jésus-Christ est appelé notre grand Dieu et sauveur. Et au chapitre 3, nous lisons également que Jésus-Christ est de nouveau associé à l'expression « notre sauveur ». Si Paul insiste autant là-dessus, c'est qu'il a ses raisons, et c'est surtout qu'il veut insister sur le salut. Il veut insister sur le fait que le message dont il a été chargé d'annoncer à toutes les nations est en lien avec le salut. Ce n'est pas juste une bonne nouvelle pour nous dire que voilà, tout va bien, Dieu veut se réconcilier avec vous. Il s'agit du salut. Du salut dont Dieu est l'auteur. Du salut dont Jésus-Christ est l'auteur. C'est pour ça que de manière quasiment interchangeable, on dit tantôt Dieu notre sauveur et tantôt Jésus-Christ notre sauveur. Et c'est de loin le message le plus important, vous le savez. L'Évangile. C'est de loin le message le plus important. Et Tite devra à son tour insister dessus. Regardons à présent la situation particulière en Crète. Je poursuis la lecture au verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit, au contraire, être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint. Maître de lui, attaché à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. C'est donc à Tite que Paul confie la mission de poursuivre le travail en Crète. Et ces églises qui se trouvaient dans différentes villes n'avaient pas de responsables. Il n'y avait pas de responsable d'église. Et Tite doit les choisir. Tite doit les établir. Et cela se fera suivant les instructions de Paul. Pourquoi les instructions de Paul? Eh bien, on l'a vu précédemment. Lui se présente comme apôtre de Jésus-Christ. Il a donc toute l'autorité pour donner ce genre d'instructions. Et nous pouvons avoir confiance dans le fait que si c'est Paul qui nous transmet cela, eh bien, ces instructions reflètent la volonté de Dieu. Et tout particulièrement la volonté de Dieu pour son Église. Un seul adjectif est répété deux fois ici, dans cette liste de critères concernant les anciens. Est-ce que vous avez repéré lequel ? Irréprochable, versets 6 et 7. Irréprochable, alors, oui, pas dans le sens d'une personne parfaite, parce que personne ne l'est, mais plus dans le sens de quelqu'un dont l'intégrité morale n'est plus approuvée. Quelqu'un d'irréprochable, c'est-à-dire une personne où de toute évidence nous ne trouvons rien de rédhibitoire. Ce côté irréprochable, nous pouvons le voir par exemple dans son foyer. Un homme fidèle à sa femme, verset 6. Un homme qui sait éduquer ses enfants selon le Seigneur. Et d'ailleurs, on dit de ses enfants qu'ils ne sont pas accusés de débauche ou d'insoumission. Eux aussi ont une bonne réputation. Et cela montre, d'ailleurs, c'est quelque chose que je souligne particulièrement pour les parents, cela montre que toute la responsabilité qui incombe aux parents, de pouvoir amener leurs enfants au moins à ne pas être accusé de débauche ou d'insoumission. Comme nous le lisons dans la première lettre à Timothée, peut être ancien celui qui sait diriger sa famille. 1 Timothée 3:5. Celui qui sait diriger sa famille peut diriger l'Église. Et au verset 7, ici, Paul insiste de nouveau sur le fait que l'ancien, le candidat en tout cas à l'ancienat, doit être irréprochable. Il le dit une deuxième fois. Un intendant de Dieu. C'est ce qu'on nous dit d'un ancien. Vous le voyez au verset 7, en tant qu'intendant de Dieu. Je trouve que c'est une expression qu'on n'utilise pas souvent pour parler des anciens ou des responsables. Un intendant de Dieu. Un intendant de la maison de Dieu, c'est-à-dire de la famille de Dieu. Et vous savez quel travail fait un intendant. Il doit justement s'occuper de cette maison, il doit prendre soin des personnes qui sont dans cette maison. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre cette expression. Un ancien est un intendant de Dieu, dans sa maison. Quelle responsabilité, n'est-ce pas ? Non seulement quelqu'un qui sait diriger sa propre famille, mais qui est appelé à diriger la maison de Dieu, comme un intendant. C'est une responsabilité qui ne peut pas convenir, en fait, à un homme qui se montre arrogant, ou un homme qui se montre colérique, comme on le voit ici, ou un homme qui aime boire et qui perd tout contrôle, ou encore un homme qui se montre violent ou qui aime l'argent. Non, tous ces défauts disqualifient d'emblée. Et s'il s'avérait qu'une personne ait un de ces défauts, eh bien, il ne pourrait pas être ancien, selon Paul, et donc selon Dieu. C'est ça aussi, être irréprochable, aussi dans ces domaines-là. Et en réalité, ce que nous devons trouver chez l'ancien, eh bien, de manière positive, c'est un sens de l'accueil qui va se démontrer par l'hospitalité. Mais également une quête du bien. C'est quelqu'un qui va rechercher tout ce qui est bien. Quelqu'un qui va se montrer effectivement réfléchi, c'est-à-dire qui va faire preuve de sagesse. Quelqu'un qui va rechercher un comportement qui soit sain, juste. Donc, quelqu'un qui a la quête de tout ce qui est bien. Et également, une personne qui a une véritable maîtrise de soi. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait du critère qui ne doit pas être un buveur, qui ne doit pas être adonné au vin. Il doit savoir se contrôler, se maîtriser à tout point de vue. Il ne doit pas être colérique, il doit savoir se maîtriser. C'est très important. Vous imaginez des responsables colériques qui dirigent l'Église? Les dégâts que ça peut faire? Vous imaginez quelqu'un qui soit alcoolique et qui dirige l'Église? Vous imaginez quelqu'un qui soit particulièrement attiré par le gain, par l'argent, et qui dirige l'Église? Pourquoi des critères si élevés? Pourquoi des exigences morales si élevées? Il me semble qu'une des réponses, c'est d'abord que ce qu'on remarque dans ces critères, c'est qu'il y a une adéquation entre le caractère de celui qui est appelé à être ancien et la parole de Dieu. Parce qu'en fait, pourquoi un ancien devrait avoir un tel comportement? Parce que la parole de Dieu le dit. Donc il y a une adéquation entre la parole de Dieu et les actes, et la vie de cette personne. Et c'est très important que l'ancien puisse refléter cela, puisse rendre témoignage que la parole est suffisamment efficace, est suffisamment bonne à suivre, est suffisamment encourageante à faire le bien pour que l'ancien puisse montrer effectivement que c'est ce qui se voit dans sa vie. Ce sont ces qualités-là qu'il reflète. Il y a une adéquation entre la parole et les actes. Et nous le verrons plus tard, cette adéquation entre la parole et les actes, eh bien, c'est aussi ce que nous devons retrouver chez tous les autres croyants. Ce n'est pas que chez les anciens, mais chez tous les autres croyants. Et il me semble que j'ai oublié de mentionner ce qui est dit tout à la fin, au verset 9. Le critère ultime, en quelque sorte, mais le critère ô combien important, que cet homme, qui serait peut-être un ancien dans l'Église, puisse être attaché à la parole de Dieu, puisse être attaché à l'enseignement que nous trouvons ici dans la Bible, qui a été transmis par les apôtres, de génération en génération. Un homme qui soit suffisamment attaché à cette parole pour pouvoir ensuite encourager les frères et sœurs avec cette parole. Mais aussi avec cette parole pour pouvoir contredire ceux qui enseignent autre chose. Et ça, c'est un critère particulièrement important. Une personne qui soit attachée à la parole, qui ne veut pas en dévier, et surtout dans sa manière de transmettre, qui ne veut pas dire autre chose que ce que dit Dieu dans sa parole. Pourquoi des critères aussi élevés? Pourquoi une exigence morale aussi haute concernant les anciens? Eh bien, il me semble que la suite du texte répond à la question. Et c'est ce que nous allons lire ensemble à partir du verset 10. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs, surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit « Décrète-toi, toujours menteur, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. » Ce témoignage est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables juives et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne. Waouh, ça c'est un portrait bien négatif concernant ces hommes. Et vous vous souvenez, à l'instant je parlais de l'adéquation entre la parole et les actes, eh bien ces hommes c'est tout le contraire. Ils prétendent connaître Dieu, peut-être même ils prétendent suivre ses commandements, mais en réalité leur vie montre tout le contraire. Et vous relevez que Paul ici prend autant de place à décrire ses enseignants de mensonges qu'à parler de ses candidats à l'ancienat. Et ce qui est impressionnant en premier abord, verset 10, c'est qu'ils sont beaucoup, ces enseignants de mensonges. Ils sont nombreux. Ils sont caractérisés par tous les défauts qui s'opposent aux qualités recherchées chez un ancien. Ils sont insoumis. Insoumis à Dieu, finalement. Ils sont trompeurs, parce que finalement leur enseignement n'est pas vrai. Ils recherchent le gain. Vous voyez au verset 10 et 11. Et Paul cite même un crétois, un certain Épiménide, un poète du 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ, qui connaît bien la réputation des siens, parce que lui-même est crétois. Et il dit, bien, en fait, ils sont toujours menteurs, ce sont de méchantes bêtes, et ils sont goinfres, des goinfres paresseux. En gros, des gens peu fréquentables. Sur le plan moral, les crétois sont terribles. Et face à cette catégorie de personnes influentes dans l'Église, Paul demande à Tite de réagir, de ne pas juste laisser faire, de les laisser au milieu des frères et sœurs. Mais Paul demande à Tite de réagir de deux manières. Enfin, en fait, ça se rejoint. D'abord, au verset 11, il faut leur fermer la bouche. Les empêcher de tromper des familles entières. Et surtout à une époque où les enseignants pouvaient aller de famille en famille et propager leur enseignement. Comment leur fermer la bouche ? Bien sûr, en cherchant d'abord à les contredire, en cherchant à rétablir la saine doctrine, le bon enseignement. Et justement, les anciens auront ce rôle de pouvoir être là, pour faire face à eux, pour leur fermer la bouche. Et deuxièmement, et bien c'est au verset 13, Paul dit à Tite, « Reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. » Il ne faut plus laisser plus de place à ces enseignants dans l'Église. Mais il faut au contraire les conduire vers la foi saine, c'est-à-dire vers la conversion. Parce qu'assurément, ces hommes qui enseignent des erreurs et qui égarent le troupeau de Dieu, eh bien, assurément, ces hommes ne sont pas convertis, n'ont pas mis foi en Christ. Pourquoi Tite doit-il agir de manière aussi vive, aussi sévère? Je vous laisse y réfléchir un petit peu. Pourquoi, justement, Tite doit réagir tout de suite? Parce que la bonne santé de l'Église est en jeu. Parce que le témoignage de l'Évangile est en jeu. Si les chrétiens commencent à se détourner de l'Évangile, forcément leur témoignage s'en trouve diminué. Qu'est-ce que ça dit de l'Évangile si même des chrétiens commencent à s'en détourner? Comme pour un virus qui affecte le corps, il ne faut pas le laisser se propager. Et vous remarquez bien que dans l'image que j'emploie, à dessein, c'est comme ce virus qui se propage dans le corps de Christ. Il ne faut pas le laisser se propager. Sur le terrain de la vérité, il faut lutter contre le mensonge, contre l'erreur doctrinale. Et de ces gens qui bouleversent des familles, nous ne savons pas beaucoup de choses, si ce n'est que ce sont sans doute des juifs. Des juifs qui aiment bien discuter de fables. De juifs qui aiment bien parler de commandements issus de la tradition des hommes. Ce sont des gens qui, en réalité, ne connaissent pas ou qui ne reconnaissent pas l'œuvre de Christ. Ce sont des gens qui continuent de distinguer ce qui est pur et ce qui est impur. Et sans doute, dans leur enseignement, ils vont propager des interdits du type « Attention, cet aliment est impur, tu ne dois pas le consommer. » Et ainsi, ajouter encore un fardeau aux croyants. Paul discerne que tout est corrompu, que tout est souillé chez eux. Au point qu'ils contredisent par leurs actes ce que leur bouche affirme. En réalité, ils ne connaissent pas véritablement Dieu. En réalité, ils n'ont pas la foi. Et rappelons que des reproches similaires étaient déjà adressés par Jésus aux pharisiens de son temps. Et ces pharisiens qui accordaient tellement d'importance aux commandements et à la tradition, Jésus les a repris pour leur montrer qu'en fait, ils ne connaissent pas véritablement Dieu. Qu'ils remplacent par leur tradition les commandements de Dieu. Malheureusement, des gens qui prétendent connaître Dieu, cela existe encore dans nos églises. Le danger pour l'Église du Seigneur, c'est lorsqu'ils se mettent à enseigner ces gens. Ce sont souvent des moralisateurs. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils vont insister sur des règles plutôt que sur la grâce et la paix qui nous viennent de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais ceci, fais cela. Sans parler de la grâce et de la paix. Aujourd'hui, les enseignants de ce genre n'ont plus besoin de pénétrer dans les églises locales. Ils ont une tribune sur Internet. Un certain nombre d'entre eux ont leur propre communauté que je n'ose pas appeler église. Et la question est, savons-nous discerner ce qui s'écarte de la saine doctrine? Avons-nous été suffisamment enseignés dans la vérité biblique pour repérer ce qui est faux dans l'enseignement d'un tel ou d'une telle? Et si ce ne sont plus des juifs qui nous menacent de nos jours, qui sont les prédicateurs dont il nous faut nous méfier? Je vous laisserai en discuter tout à l'heure dans les petits groupes. Mais qui sont les prédicateurs dont il faut nous méfier aujourd'hui? En tout cas, le meilleur moyen pour l'Église de résister à l'influence de ces discoureurs trompeurs, c'est que l'Église soit enseignée par des hommes attachés à la parole de Dieu, qui est digne de confiance. Par des hommes sans reproche. Par des hommes qui prennent suffisamment la parole de Dieu au sérieux pour l'appliquer dans leur propre vie. La meilleure manière de pouvoir résister à cette influence, qu'on ne doit pas ignorer, à cette influence néfaste, c'est que l'Église soit enseignée par des hommes attachés à la parole de Dieu qui est digne de confiance. Des hommes sans reproche. Et bien sûr, j'ai longuement parlé de cette situation qui se passe à l'époque de Paul et de Tite dans les églises de Crète, mais qu'en est-il de nous à l'église de l'Appi. J'aimerais dire quelques mots sur notre situation présente. Parce que si le texte aborde la question des anciens, il nous faut aussi nous la poser. Avons-nous besoin d'établir des anciens aux côtés des pasteurs, qui sont déjà anciens, pour nous encourager par un enseignement sain? Avons-nous besoin d'anciens qui savent discerner les enseignements trompeurs qui circulent jusque dans les maisons, par le biais d'Internet? Avons-nous besoin d'hommes qui ont les qualités énoncées par Paul dans l'Église? Mes amis, prions Dieu que de tels hommes se lèvent au milieu de nous, avec courage. L'Église ne sera jamais tranquille. L'Église ne sera jamais tranquille dans le sens qu'il y aura toujours une féroce concurrence entre les enseignants de mensonges et les défenseurs de la saine doctrine. L'Église ne sera jamais tranquille. En tout cas, ici-bas. Et il me semble qu'il importe de réfléchir sérieusement à la question des anciens parmi les francophones. Nous avons vu que la santé de l'Église est en jeu. Le texte de Tite ne nous dit pas tout sur les anciens. Et il faut regarder, par exemple, à d'autres textes, je vais juste en mentionner un. 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 2. Voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. C'est Pierre qui écrit. « Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. » Donc voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. « Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais de bon gré. » Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Dans ce texte, nous voyons que les anciens ont clairement un rôle pastoral. Ils sont comme des bergers du troupeau de Dieu qui représente l'Église. Et certains diraient même, en fait, des sous-bergers sous l'autorité du grand berger qui est Jésus. À une époque où le manque de pasteurs dans l'Église est criant et préoccupant pour l'avenir, on réfléchit déjà à la manière de mieux équiper les anciens dans les églises, ou bien d'en former de nouveaux. Parce que de toute évidence, la relève ne pourra pas venir seulement des instituts de formation. Nous n'aurons pas assez de personnes à temps plein pour remplacer tous les pasteurs qui partent à la retraite en France. Peut-être alors pourrons-nous compter sur des hommes qui, tout en ayant à côté leur vie professionnelle, consacrent du temps à prendre soin de l'Église. Des hommes sans reproche. Des hommes spirituellement matures pour être les intendants de Dieu. Et si un jour le Seigneur m'appelle à servir ailleurs, peut-être dans une autre région, j'espère que des anciens seront déjà établis dans notre Église. John Stott disait que plus il y a d'enseignants de mensonges, de faux prophètes, plus il faut leur opposer de vrais enseignants qui enseignent la véritable parole. Réfléchissons encore à cela. Un mauvais enseignement qui s'infiltre dans l'Église entraîne les chrétiens à adopter une vie qui s'éloigne toujours plus de ce que Dieu veut. Si Paul n'avait rien envisagé pour les églises de Crète, ces communautés naissantes n'aurait pas survécu. Face à une légion d'hommes et de femmes qui n'enseignent pas selon la parole de Dieu, selon l'évangile de Jésus-Christ, il nous faut des hommes qui nous ramènent aux fondamentaux, qui nous ramènent sans cesse à l'évangile, sans l'édulcorer. Et Paul le fera d'ailleurs dans la suite de cette lettre. Il rappellera à Tite la grâce qui nous vient de Dieu et qui s'est manifestée par Jésus-Christ. Lui-même, Jésus-Christ, a donné sa vie pour nous racheter, pour faire de nous un peuple qui vit pour lui. Mais là, déjà, je déborde sur le chapitre 2, donc je ne vais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter là pour vous donner à présent du temps pour discuter.